L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Christian Robert, prêtre du diocèse de Cahors, doyenné de Serre-Dordogne.
Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia! Christ est ressuscité! La mort a été vaincue! Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie, nous dit le psaume 117 aujourd'hui. Même si l'événement n'a pas du tout été vécu comme cela ce jour-là. Car si on interroge Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection, à la façon de la séquence de la liturgie, « Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ?» Ou si on interroge l'évangile de Jean, ce qui a été vécu ce jour-là, c'est des ténèbres. Les ténèbres d'un jour pas encore vraiment levé, de l'angoisse d'une pierre très lourde à rouler, et de l'incompréhension. Marie-Madeleine se rendit au tombeau de grand matin, c'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau, et elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Ce qui s'est passé, c'est de l'absence. Les apôtres qui voient le tombeau vide avec les linges bien rangés, dont celui qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Coiffe de la cathédrale de Cahors, soigneusement rangé à sa place, mais lui ne l'ont pas vu. Ce qui s'est passé, c'est Marie-Madeleine et les disciples qui marchent tout tristes vers Emmaüs, qui ne reconnaissent pas Jésus alors qu'il est pile devant ou à côté d'eux. Ce qui s'est passé, c'est de la frustration. « Noli me tangere, ne me touche pas !» dit Jésus à Marie-Madeleine lorsqu'elle le reconnaît enfin. Et pourtant, il s'est vraisemblablement bien passé quelque chose d'extraordinaire cette nuit-là, selon l'hypothèse actuellement la plus scientifiquement fondée et formulée par le Centre international d'études sur le linceul de Turin, au sujet de la formation encore partiellement inexplicable de l'image de l'homme du suaire sur le linceul. En gros, le corps aurait émis, à partir de son deutérium, un flux de protons qui aurait créé l'image. et un flux de neutrons qui auraient rechargé et rajeuni le carbone 14 du tissu. Malgré de nombreux remaniements, la théorie du révérend père Rinaudo se heurte à de graves objections dans les domaines des mathématiques et de la physique nucléaire. Un seul exemple. L'énergie nécessaire aurait représenté celle de plusieurs bombes atomiques explosant dans le tombeau. En outre, si un jet de protons peut roussir un tissu, cela n'explique nullement qu'il puisse produire une image exacte et nuancée. L'hypothèse d'un rayonnement venu du corps est cependant actuellement la seule qui soit recevable. Il s'agirait d'un rayonnement thermique très bref et très intense. Et ce rayonnement possède des propriétés particulières, actuellement inexplicables autrement que par le miracle de la résurrection. Mais chut ! C'est comme après la transfiguration, en redescendant de la montagne, une sorte de signe, de trace de sa gloire, de Dieu dans notre histoire. Un peu comme la danse du soleil en 1917 à Fatima. Quelque chose dont le sens demeure accessible à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, comme le dit Simon-Pierre à Césarée dans notre première lecture. Comme le dit l'apôtre Jean à son tour dans l'Évangile, il vit et il crut. Et pourtant, le spectacle devant lui était le même que celui offert à Simon-Pierre, entré juste avant lui. On retiendra en définitive que la résurrection du Christ n'a pas été une manifestation éclatante, ni une apparition grandiose qui aurait impressionné les habitants de Jérusalem, ni ce jour-là, ni les jours suivants. La vérité est que la vie a continué son cours presque comme avant, sauf apparemment progressivement pour le cercle des disciples et des amis de Jésus. Certains chrétiens pourraient donc bien rêver d'un triomphe du Christ ressuscité à la César ou Pompée. Mais la vérité est que le royaume du Christ Jésus n'est pas de ce monde, comme il l'a dit lui-même à Pilate. Au matin du premier jour de la semaine, seul apparaît le tombeau vide. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Le corps a disparu. Et cette absence interroge. Personne ne comprend, sauf Jean, celui qui comprenait toujours tout avant les autres, et Marie-Madeleine, qui finit par le reconnaître. Il est disciple d'Emmaüs, dont le cœur brûlant a précédé l'éveil progressif des sens. De la même façon, la résurrection n'a pas mis fin au péché, et encore moins au mal ou à la mort, mais elle les a subordonnés, afin qu'il n'ait plus jamais le dernier mot. Désormais, tous ceux qui croiront en lui et seront baptisés, c'est-à-dire plongés dans sa mort et sa résurrection, participeront à travers cette vie nouvelle reçue de Dieu à la construction de ce monde nouveau et pourront participer à la victoire finale du Christ qu'ils ont mission de manifester dans le monde par leur foi, leur espérance et leur charité, sous la conduite de l'Esprit-Saint. Même si cette vie nouvelle, reçue notamment par les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques, ne signifie pas, en vertu de tout ce que nous venons de dire, la suppression des épreuves et des tracas, mais le déploiement d'une vitalité et d'une liberté nouvelles dans toutes les circonstances de leur vie et de celles de leur entourage. Il nous appartient donc, à présent, de leur souhaiter tout le bonheur du monde et que quelqu'un leur tende la main, que leur chemin évite les bombes, surtout aujourd'hui, qu'ils mènent vers de calmes jardins. Oh oui, on leur souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que leur soleil éclaire si l'ombre, qu'ils brillent d'amour au quotidien, comme le disait Sinsemilla dans sa chanson. Car désormais, en tant que chrétien baptisé, il leur faudra être disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est là pour suivre, akolouteo en grec, suivre et imiter le Christ. Et le premier job de Jésus-Christ durant sa vie publique était de faire le bien, comme le dit le texte des Actes des Apôtres aujourd'hui. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait. Et puis il leur faudra être témoins, comme le martèle à 4 reprises Luc dans les Actes des Apôtres, notre première lecture, aujourd'hui. Nous sommes témoins, des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Et puis il leur faudra être des amis dans le Seigneur, c'est-à-dire plus qu'un abonné qui a activé la petite cloche bleue pour recevoir toutes les notifications. Un ami dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui a décidé d'ouvrir sa porte et son cœur à cet homme, ce Dieu pour la vie, qui nous nomme amis. Amen.